Philippiens 3, les 11 premiers versets de ce chapitre, c'est un texte absolument extraordinaire, le genre de texte sur lequel on aimerait prêcher tous les dimanches, tellement il y a de richesse dans ce texte. Alors je vais d'abord le lire. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et que nous mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, si au concile du huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. On lit ce texte. On ne peut pas rester indifférent. Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est le nombre de fois où Paul, dans cette épître, dans cette lettre, il revient sur la joie. Rappelez les derniers mots qu'on vient de chanter. Tu es notre joie, voilà. Tu es notre joie. Et il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il a des fois des choses un peu dures à dire aux Philippiens, des sujets compliqués, mais en même temps, il revient, voilà, réjouissez-vous, soyez dans la joie. Il y a toutes les raisons du monde d'être dans la joie. Et il continue tout de suite, ouais, moi, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Cela vous est utile. S'il fallait que je vous écrive une lettre au mail tous les jours pour dire la même chose, ce ne serait pas fatigant. Je ne me lasse pas, ce n'est pas fatigant. Et il n'est pas le seul à dire ce genre de choses dans le Nouveau Testament. Donc, là, il commence au verset 2 avec un avertissement utile. Chien méchant. Quand on se promène en banlieue, il y a tous les pavillons, on devrait se rappeler ce texte, toutes les trois maisons, chien méchant, affiché sur les portes, les portails. Prenez garde aux chiens. Il faut savoir que dans l'Antiquité, les chiens n'étaient pas les petits animaux domestiques qu'on avait, c'était des animaux impurs, et qui souvent rôdaient en petits troupeaux autour des villes cherchant à manger les ordures. Il s'agit ici, comme il dit, de mauvais ouvriers, adversaires dangereux, des gens sans scrupules qui cherchaient à détourner les chrétiens de l'essentiel, de la grâce de Dieu. Ils appellent aussi les faux circoncis. j'ai vu dans certaines traductions, il disait qu'il impose la circoncision, parce qu'en fait, quand il dit faux circoncis, ça veut dire qu'ils enseignaient qu'il fallait que les convertis, même non-juifs, les goïms, devaient se faire circoncire, parce qu'ils rentraient un petit peu dans l'alliance avec Dieu. Et vous savez que Paul et Silas, Barnabas et d'autres se sont opposés de façon assez violente à cela en disant qu'il y a une nouvelle alliance. Pas besoin d'imposer le signe de l'appartenance à l'ancienne alliance. Parce que c'était un signe qu'il fallait obéir à toute la loi de Dieu. Et personne n'y arrive. Même Pierre dit dans Acte 15, le Concile de Jérusalem, ils veulent imposer un fardeau que ni nous, ni nos pères n'avons pas pu porter. Impossible. Donc, au contraire, il dit, nous, nous sommes le peuple de Dieu. Et je pense qu'il faut retenir cela de façon très forte. Ça peut sembler prétentieux. Si on regarde la population de Paris, les 2,5 millions de Paris intramuros, les 7 millions selon la façon dont on compte en Ile-de-France, et je vous regarde, je dis, vous êtes le peuple de Dieu. Ça sent prétentieux. Nous sommes le peuple de Dieu. Heureusement, nous ne sommes pas seuls. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Pourquoi? Il dit, les circoncis, c'est nous. Pourquoi? Parce que nous vivons, en quelque sorte, ce que les prophètes avaient annoncé quand ils ont dit, il ne suffit pas d'être circoncis dans la chair. Il faut que le cœur soit circoncis. Il faut qu'il y ait un changement radical. À la limite, il n'est pas si difficile de se plier à des dizaines de lois. Ça demande une certaine discipline, mais bon, on peut. Mais avoir un changement de cœur, ça ne peut venir que du Seigneur. Je peux lire deux textes qui vont dans ce sens. Les chercher, vous pouvez, sinon je les lis de toute façon. Deutéronome 10, le verset 16, où Moïse demande au peuple de craindre l'Éternel son Dieu, de marcher dans ses voies, et il dit au verset 16, Deutéronome 10, 16, vous circoncirez donc votre cœur. Les prophètes vont dans le même sens que Jérémie 4 et le verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Alors, ça se fait comment? Le verset 3 nous donne les trois caractéristiques. Nous rendons à Dieu un culte par l'Esprit. Parce que nous sommes nés de nouveau, une nouvelle vie. On reçoit cet Esprit en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand on rend un culte, c'est vraiment un culte spirituel que Dieu cherche. Non pas simplement des rituels, des liturgies, des répétitions de phrases, par lesquelles souvent les êtres humains pensent plaire à Dieu, comme si c'était une sorte de contrat, vous m'obéirez de telle ou telle façon, je vous bénirai. C'est pas ça, c'est une relation que Dieu veut. Donc on rend un culte à Dieu par l'Esprit. Nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ. Parce que c'est lui le sauveur. Et le corollaire, c'est que nous ne mettons pas, nous ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes. Nous qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc la chair, c'est le comportement humain ordinaire. Ce n'est pas le corps, hein, dont on a vu la chair, c'est quand l'homme cherche à vivre par ses propres moyens, ses propres pensées, etc. Donc voilà, nous, on ne met pas notre confiance en la chair, on met notre confiance en Jésus, on trouve notre fierté en lui, et on adore Dieu par l'esprit. Ce qui fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas prétentieux. C'est-à-dire, nous sommes le peuple de Dieu, parce que nous ne disons pas nous sommes meilleurs que les autres. Nous disons, à lui, nous sommes pires que les autres. Mais Dieu nous a sauvés. Il a fait de nous son peuple. Paul, je ne sais pas s'il exagère, mais il dit, il était le premier des pécheurs. Et à la limite, chacun de nous, on peut le dire. Peut-être aux yeux du monde, ce n'est pas le cas. Mais quand le Seigneur nous parle et nous amène à lui, on comprend toute la façon dont on se comporte qui ne lui plaise pas. Et on sait qu'il n'y a que par la grâce de Dieu que nous pouvons avoir cette relation. Donc, Paul veut enfoncer le clou et il explique que lui, il aurait toutes les raisons au monde d'être fier. Donne son CV. Il a suivi tout ce qu'il fallait pour être un bon pratiquant juif. Ses parents l'ont fait circoncire le huitième jour, comme il fallait. Il est de la race d'Israël. Donc il n'était pas un converti au judaïsme. Quelqu'un peut l'être, mais lui était de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, important, parce qu'il y avait, c'est la seule tribu qui est restée fidèle à la tribu de Juda, quand il y avait la séparation entre le royaume du Sud et le royaume du Nord. Hébreu, né d'Hébreu, la lignée. Et certainement important dans le sens où. Paul a grandi hors d'Israël, dans l'empire hellénique. Il y avait beaucoup de pression, même sur les juifs, d'adopter plutôt les pratiques grecques. Et donc, on a fait un culte du soir il y a 3 semaines où j'ai montré plein de photos qu'on avait prises justement d'Israël. Avec tous les palais, tous les temples que les rois juifs avaient mis en place pour suivre la culture grecque. Il y avait beaucoup de pression pour lui, non, je suis hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi pharisienne, pour lui, un pharisien. Donc c'est la secte la plus rigoureuse du judaïsme. Quant au zèle persécuteur de l'Église. N'était pas de ceux qui disaient « Oh, c'est terrible, cette église qui est là, qui s'oppose à nous. » Il agissait. Il essayait même d'attraper des hommes et des femmes pour les mettre à mort. Et il dit même « irréprochable à l'égard de la justice extérieure de la loi. » Puis il ajoute quelque chose d'extraordinaire, à partir du verset 7. Il considère tout cela comme une perte totale. Il dit même comme des ordures. La traduction que j'ai dans ma Bible second pour le verset 8, c'est « Je les regarde comme de la boue ». Je pense que le mot « ordure » est plus proche. Certains traducteurs mettent « fumier », qui est un peu les ordures de toute façon. Hein. Quand on aujourd'hui, on se plaint de la pollution des voitures, mais quand dans les villes anciennes, il y avait beaucoup d'ânes et tout ça qui passait dans la ville, hein, votre type de pollution qui était laissé par terre. Il dit tout cela, je le regarde comme du fumier, comme une perte totale. Mais par rapport à quoi? Par rapport à plus des choses. D'abord, la justice qui vient de Dieu par la foi. sa propre justice. Et c'est là la grande marque, on va dire, du christianisme par rapport à toute autre religion, c'est que partout ailleurs, on essaie de manipuler Dieu, soit en faisant des bonnes choses, soit en essayant d'obéir aux commandements, de suivre certains rituels, etc. T'essaies de persuader Dieu que finalement, je ne suis pas si mauvais que ça. Il faut qu'il m'accepte, qu'il fasse ce que je veux. Même chez nous, quelqu'un m'avait dit l'autre jour, quelqu'un qui résiste un petit peu à Dieu, il dit, mais je prie, Dieu ne m'exauce pas, ce n'est pas ce que je veux. Il n'y a pas de raison pour laquelle Dieu fasse ce que veut un être humain, Dieu est Dieu. Et surtout quand il s'agit donc de sa sainteté totale par rapport à ce que nous sommes. Impossible de nous rattraper nous-mêmes par notre propre justice. J'ai souvent dit, excusez-moi, mais c'était vraiment une pensée très forte que j'ai eue et qui aide les gens à comprendre. J'ai dit, nous avons tous quelque part la mentalité du baccalauréat. Il faut avoir la moyenne. J'ai une mauvaise note. Si on s'en vit, il va rattraper en français ou je ne sais pas quoi. Il faut qu'il y ait la moyenne. Et quelque part, on vient à Dieu comme ça. Il faut qu'il y ait la moyenne. Ok, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, mais j'ai quand même essayé de faire les bonnes choses. J'espère que j'aurai la moyenne. Mais ce qu'on oublie, c'est que la moyenne pour Dieu, c'est 20. Et dès qu'on a fait une seule faute, on a 19. Alors dites-moi, comment on peut avoir du 21 pour le rattraper ? Parce que si on fait ce qui est bien, on ne fait que du vin. On ne peut pas se rattraper par sa propre justice. Ça, c'est fondamental. Donc, Paul dit, ah, je suis trouvé en Christ, verset là, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Non, pour nous. Deuxième chose. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. C'était la deuxième chose. Par rapport à cela, tout le reste est comme du fumier. Connaître Christ. Un mot qui revient à plusieurs reprises dans ce texte. La suite commence d'ailleurs au verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ. Cette excellence de la connaissance de Christ. De connaître. Mais quelle est cette connaissance? Justement, les versets 10 à 11 nous donnent quelques pistes. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'expliquer rapidement, au verset 10, les trois choses que cela implique selon ce texte de connaître Christ, et ensuite d'essayer de réfléchir un peu ensemble avec vous, mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Les trois choses de cette relation incluent, selon ce texte, une identification aux souffrances de Christ, à sa mort et à sa résurrection. Ça, c'était les trois choses. Ses souffrances, sa mort et sa résurrection. C'est ça qui est dit au verset 10 et 11. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Il ajoute pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Petite parenthèse, parce que la traduction traditionnelle de la version seconde dit « si je puis », comme s'il y avait quelques doutes quelque part. J'espère, mais si je peux, je ne pense pas que ce soit la meilleure traduction qui soit. Sommer le traduit de quelque manière que ce soit, Non, pardon, le sommaire dit quoi qu'il arrive. Et je pense qu'une traduction assez littérale, c'est de quelque manière que ce soit. Le second 21 dit d'une manière ou d'une autre. Et il veut dire par là qu'il veut arriver à la résurrection de Christ par sa mort, mais il ne savait pas de quelle façon cela se passerait. Est-ce qu'il serait condamné? Vous rappelez le contexte des Philippiens. Il était en prison, il ne savait pas s'il allait être condamné à mort ou libéré. Donc il ne savait pas s'il allait perdre la vie rapidement ou encore vivre un peu. Est-ce qu'il allait mourir de ses vieux jours? Est-ce qu'il allait être tué par l'empereur? Il ne savait pas. Donc, c'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est mieux de traduire cette phrase par de quelque manière que ce soit ou quoi qu'il arrive. Je ferme la parenthèse. J'ai connu quelqu'un annoncer qu'il était toujours très troublé par ce verset. Je tiens donc à donner un petit peu d'exemple. Alors, voilà les trois choses, mais pratiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Donc je vais essayer de donner quelques explications telles que moi je le comprends. Il est vrai qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui se méfient de tout ce qui est religion, de la vie. Et nous aussi, on veut la vie. Et donc, cela veut dire que ce que Paul est en train de développer, je crois que nous avons à cœur cela, nous avons déjà vécu cela, nous voulons le vivre plus. C'est la vie, tout simplement, dans tout ce qu'on fait, tous les jours et toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je pense que c'est peut-être, une des rares choses qui peut vraiment toucher le contemporain quand on veut témoigner. Je me souviens d'une phrase de prononcée par Henri Blocher il y a bien des années. Donc, il a dit lors d'une conférence, le français moyen pense qu'il sait tout sur la religion. La seule chose qu'il arrête, c'est quand on dit j'ai une relation avec Dieu. Parce que ça, il n'a jamais entendu. Une relation avec Dieu. Connaître Christ. Ça, si on le vit, ça peut toucher les gens de notre entourage. Alors, pratiquement, quelques pistes pour cela. Première chose, pour connaître Christ, c'est vraiment nous imprégner des paroles et des actes de Jésus. Je me rends compte que parfois, je ne lis pas assez les évangiles. Parce que quand on est chrétien depuis un certain nombre d'années, on se dit, bah, tout ça, on connaît ces histoires, ces paraboles, etc. Et pourtant, on a fait ensemble l'étude biblique du même soir, tout l'évangile de Marc. On a mis beaucoup plus longtemps qu'on pensait. Il y avait des soirées, on avait passé la soirée sur un ou deux versets. Tellement il y avait des richesses. Donc, il a vécu ça avec nous. Donc c'était, il y avait vraiment tellement de choses à voir, nous imprégner de ses paroles, de ses actes, pour savoir qui est ce Jésus, pour suivre son exemple. Donc j'ai mis un verset là, Jean 14, verset 21, où Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, suivre l'exemple de Christ, quand il dit ses commandements, à distinguer de ses commandements religieux, c'est d'abord le commandement d'aimer les autres. Et d'aimer Dieu de notre cœur. Une deuxième chose, c'est... J'ai dit développer une relation de proximité. Ça veut dire nous souvenir de la présence du Seigneur à tout moment. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit livre qui a été publié il y a à peu près trois siècles, un peu plus, d'un certain frère Laurent. Donc, j'aime bien parce qu'il est d'origine lorraine. Donc j'ai passé plus de 20 ans à Lorraine. Il est venu, il était militaire, puis il est devenu moine dans un monastère du côté de la rue de Sèvres actuellement. Donc il était moine, puis bon, c'était un militaire, et puis on a mis au service des autres dans la cuisine. Donc il a passé son temps dans la cuisine. Et il a essayé de développer cette relation de proximité avec Jésus dans tout ce qu'il faisait. Il y a une belle phrase dans son livre qui dit « Je retourne mes petites crêtes en pensant à Jésus. » Bon, on peut dire la même chose pour chacun de nous, quel que soit le métier, quelle que soit la chose que l'on fait. Donc on le fait en présence du Seigneur, nous rappelons qu'il est là. Jean 14, 18. Il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » On a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, hein, comment le Saint-Esprit représente et amène Jésus dans ce sens, parce que chaque personne de la Trinité est totalement représentée par les autres. Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'aux extrémités de la terre. » Troisième chose, mourir à son ancienne vie. Hein. Je reviens à Philippiens qui disait donc la conformité à lui dans sa mort. Vous savez, dans Romains 6, quand ils sont baptisés, c'est baptisé en sa mort, on dit non à son ancienne vie. Le symbole du baptême, c'est de dire je suis enterré, quoi. Je suis enterré et je reviens à une nouvelle vie. C'est pour ça qu'on est plongé. Tout autre sens, d'autres façons de pratiquer le baptême enlève ce sens profond. Je suis enterré, je commence une nouvelle vie. Donc on vit cette nouvelle vie parce que je deviens conforme à Jésus dans sa mort. Et donc après, je cherche à vivre cette nouvelle vie. Nouvelle façon de vivre, nouveaux principes. Ne serait-ce qu'une chose, pour moi, plus je vieillis, plus je comprends que je suis en porte-à-faux par rapport au monde, tout cela, c'est dire la vérité. Ne pas mentir, ne pas manipuler, dire les choses, la vérité, tant que possible. Puis, simplement, vivre de cette nouvelle vie, en devenant conforme à lui dans sa mort. Ensuite, en souffrant, il faut souffrir pour le bien des autres. Il ne s'agit pas de vouloir souffrir pour certains blondis. En souffrant, on se rachète en quelque sorte. On contribue à sa rédemption parce que, voilà, on paie son péché en quelque sorte par la souffrance. Il y a des gens qui disent écoutez, je ne sais pas pourquoi je souffre, je ne vois pas trop ce que j'ai fait de mal, mais bon, il faut porter sa croix, comme on dit, il faut souffrir. C'est pas ça. Mais il y a même une communion de ces souffrances. Dans Jean 15 et le verset 20, Jésus nous prévient. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Voilà. Et ceux qui veulent devenir chrétiens pour s'épanouir, pour être bien, n'avoir plus de problème, il faut. Parce que le Seigneur, ils enlèvent certains de nos problèmes avec cette nouvelle façon de vivre, mais on en moissonne d'autres, on en récolte d'autres, parce qu'on veut vivre pour le Seigneur dans un monde qui ne le veut pas. Enfin, c'est comme ça. Et donc, Pierre nous dit dans sa première épître de suivre sur ses traces, hein, Pierre 2, à partir du verset 20. Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait pas d'injure, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la voie, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Voilà. Il a donné cet exemple de souffrance. Et cela veut dire quoi? Donc, j'aime bien ces versets dans Colossiens. Non. Tu vas bien? Ouais, merci. Colossiens 1.
Oui, il était.
Enfin, il était. Colossiens 1, 24 et 25, où Paul dit, je me réjouis, il est toujours dans la joie. Vous avez vu la suite? Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? Paul veut compléter les souffrances de Christ. Pourquoi? Christ a souffert pour nous. Oui. On ne peut rien ajouter à son sacrifice pour notre rédemption, pour notre salut. Tout est accompli. C'est Jésus qui a lui-même de la croix. Mais, à partir de là, pour que cela soit apporté aux extrémités de la terre, il y a un certain nombre de souffrances. J'ai souvent citer un chiffre qui m'a toujours étonné. C'est les premiers missionnaires européens qui allaient en Afrique occidentale, leur durée de vie moyenne en arrivant sur ces terres, c'était 3 mois. Tellement il y avait des maladies qu'ils ne connaissaient pas, etc. Ils mouraient. Et d'autres venaient prendre leur place. C'est une façon de dire. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair, comme Paul l'a dit. Et il reste encore cette souffrance, non pas une souffrance de perdre notre vie, mais combien de fois on essaie de parler du Seigneur, l'autre ne veut rien savoir. C'est une certaine souffrance, parce qu'on vient avec la meilleure offre au monde, et la personne ne veut pas savoir. Et de la même façon, il dit qu'il achève aussi pour son corps qui est l'Église. Parce que essayer, en tant que chrétien, d'exhorter les uns les autres à vous faire avancer dans notre foi, etc., a parfois des souffrances. Je comprends quand le psalmiste dit aussi, j'avais seulement les ailes de la colombe, c'est ça? Je partirais. Et Jérémie, à un certain moment, disait « Oh, si j'avais un petit cabanon perdu au champ, j'irais là-bas, je m'occuperai pas de tout ce peuple. » J'appelle ça ma tentation de la bergerie aux Pyrénées. À un certain moment, je lui ai jamais racheté. Maison quelque part, cachée comme ça. J'écris des livres, je compose des choses. Mais seulement la vie, c'est pas comme ça. C'est la vie réelle, c'est qu'on se frotte un petit peu aux autres et on cherche à avancer ensemble. Et donc, cette communion aux souffrances de Christ, c'est ça aussi. Puis la troisième chose, c'est la résurrection, ne jamais oublier notre destination. Et on a connaît Christ parce qu'on sait qu'on a cette attente glorieuse d'être auprès de lui, on l'attend, temps, avec plus ou moins d'ardeur. Il devrait y avoir peut-être davantage d'ardeur, mais on attend. On veut connaître aussi cette résurrection. On peut demander à avoir plus d'impatience pour cela, seulement comme Paul a dit déjà dans l'Écriture, on l'a vu il y a quelques semaines. C'est parce que je veux partir pour être auprès du Seigneur, rester là parce que j'ai encore le travail à faire sur la terre. Mais on vit cette communion avec Christ dans cette attente. Donc que ce soit ses souffrances, sa mort et sa résurrection, connaître Christ, c'est dans ce cadre-là. J'ai ajouté un petit peu le connaître dans sa vie aussi. Alors, on a de la chance. On a de la chance parce que il arrive très souvent que à la fin de la préparation d'une prédication, je dis, il faut qu'on choisisse un chant qui nous permet de concrétiser. Alors, il y en a un qui ne dit que ce que nous avons vu. Donc si tu peux passer à celle-ci, voilà, je vais la lire. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde. Ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien. Car je préfère te connaître Jésus, te connaître. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie, ma justice au Seigneur, je te prie. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie, ma justice, au Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection. Communion Jésus à tes souffrances. Devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime.